au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 23 septembre, il fait beau, il fait chaud, 22 degrés actuellement au cœur de la Lanaudière avec le ressenti, là, c'est 25. À l'émission aujourd'hui, avec nous Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, il sera question de la contestation judiciaire de la loi sur la laïcité. Pierre Paquette également avec nous. On va parler de Donald Trump qui, encore une fois, est la risée de la terre entière. Josiane Ray sera avec nous. Elle est ambassadrice du 6AM Club. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un nouveau club de course à pied dans le sud de la région de la Lanaudière. Luc Parlavecchio également avec nous, intervenant au Centre d'amitié autochtone de la Lanaudière, l'organisme qui performe très bien, là, de plus en plus d'ailleurs, même dans le tourisme. Et pour débuter cette émission, le remaniement ministériel effectué par François Legault a eu lieu, on le rappelle, là, il y a quoi, environ deux semaines, et a des répercussions dans la Lanaudière. La députée de Berthier, Caroline Proulx, là, s'est pointé à CFNJ ce matin là, pour discuter avec François Morin de ses nouvelles fonctions en tant que ministre des Aînés et de la condition féminine. On écoute l'entrevue.
Ben, tu sais, c'est des dossiers qui sont parfois complexes, les aînés, les soins, la condition féminine, mais il y a quelque chose qui les unit, selon moi, c'est toute la dimension émotionnelle. Tant pour les aînés, responsables, donc ministre délégué à la santé puis la condition féminine, c'est des dossiers qui ont des dimensions émotives, émotionnelles vraiment très importantes. Puis, je les appelle les vieux, puis c'est avec tout le respect d'humour, toute l'attention et tout l'amour que je leur dédie que la dimension émotionnelle va être importante pour travailler avec ce groupe-là, entre autres les aînés, là, comme ministre responsable des aînés, d'en prendre soin, d'être du cocooning. Parce que, écoute, j'étais au secondaire, puis on parlait de la pyramide inversée. Au secondaire, je vais avoir 60 ans l'été prochain, donc mon secondaire, ça fait quand même une mèche.
J'ai entendu parler de la même chose, on est à peu près de la même génération.
Oui, c'est ça, je suis dans 66, puis on parlait de ça à l'école, à l'époque, de la fameuse pyramide inversée. On parle du milieu des années 80, puis aujourd'hui, ben les statistiques sont assez impressionnantes. Tu sais, quand tu parles des 65 ans et plus, aujourd'hui, ça représente à peu près 21% du poids démographique de l'ensemble du Québec. En 2031, ça va représenter 25% du poids démographique du Québec. Donc, c'est un poids qui est très important avec lequel il faut travailler. La chose qui est importante à préciser, puis c'est ce que j'apprends, puis je suis encore en apprentissage, comme vous le comprendrez, mais il y a à peu près 8% de cette tranche-là de 65 ans et plus qui est identifiés comme étant des personnes avec des limitations chez les aînés. Fait que le reste de la population, les 65 ans et plus, comme vous et moi, là, ou la tranche vers laquelle...
La soixantaine et plus.
La soixantaine et plus, reste néanmoins qu'il y a des politiques qui ont été mises en place par le gouvernement du Québec, par l'équipe du ministre Dubé, Mme Bélanger, qui était responsable des aînés avant, ma collègue Isabelle Charest, pour faire en sorte... Un, qu'on reste le plus longtemps à maison, puis deux, qu'on aille une forme physique, donc en amont prévenir les maladies qui sont dont on peut se prémunir. Et donc, c'est toute cette vision-là qu'on est à travailler. Et donc, l'idée de garder les gens le plus longtemps à la maison, puis vraiment augmenter et cibler le soin à domicile.
Et autant que possible, les garder occupés aussi, parce que c'est une tranche de population qui peut encore servir la société. Mais là, le problème, il est au niveau fiscal.
Mais garder les gens dans le milieu du travail de façon très large, lorsque j'étais responsable du tourisme, on avait eu aussi ces mesures-là qui avaient été mises en place par le ministre des Finances. Donc, ce qu'on appelait les travailleurs expérimentés, des gens qui ont passé beaucoup de temps sur le terrain, de les ramener donc dans le giron du travail avec des exemptions. Ça n'a pas tiré autant de gens qu'on l'aurait cru. Maintenant, il faut regarder du côté des plus jeunes, où quand même il y a un taux de chômage qui est assez élevé chez les jeunes. Donc, voir eux comment on peut également les intégrer dans le milieu du travail. Mais reste que donc, les aînés, pour conclure sur votre question, puis conditions féminines, c'est des gens avec lesquels moi je souhaite travailler avec toute la perspective puis la dimension émotionnelle, parce qu'il y a encore beaucoup de batailles à mener.
Et on parle beaucoup des maisons des aînés. Ça a été décrié passablement dans l'actualité compte tenu des coûts. Est-ce que c'est encore effectivement là, un projet qui doit demeurer, qui en fait qu'on doit promouvoir?
Je suis heureuse d'avoir visité ma première maison des aînés hier du côté de Laval, une maison qui a été inaugurée il y a à peine 2 ans. J'ai été tellement émue de rentrer là, pour vrai, de voir ces gens-là, de la façon juste comment la cuisine est constituée, puis le lien direct entre ceux qui la préparent et ceux qui la consomment. Ne serait-ce que d'avoir une chambre privée, de pouvoir aussi recréer l'environnement que vous aviez chez vous dans ce nouvel espace-là. Il y a ça aussi qui est contenu dans le concept de la maison des aînés. Il y en a plusieurs déjà qui sont en opération. On parle de 42, de 46. Donc, c'est près de 3500 places qui ont été additionnées. Puis, les CHSLD, très vétustes au Québec. Là aussi, il y a un plan donc pour remettre à niveau ces CHSLD-là. Puis on parle là, de 2800 places là aussi là, qui vont être additionnées.
Conditions féminines, ça aussi, ça fait beaucoup l'actualité. Il y a des préjugés qui demeurent, il y a des comportements qui perdurent. Il y a encore pas mal de défis à relever.
Toujours des positions à défendre, puis des positions à maintenir du Conseil du statut de la femme. Là aussi, c'est un dossier que je découvre, mais effectivement, on peut regarder un peu du côté des Américains, ce qui se passe avec certains droits qui sont enlevés aux femmes. Reste que ça aussi, ça va être un dossier extraordinairement intéressant. Puis autant que faire se peut, je vais essayer de greffer les mesures chez les aînés qui vont venir inclure celle de la condition féminine. Tu sais, je vais vouloir avoir des actions parce qu'il y a un temps d'opération qui est relativement court en ce qui me concerne. Donc, l'idée, ça va vraiment pouvoir réfléchir à des mesures chez les aînés qui vont pouvoir aussi inclure toute la condition féminine, la maltraitance, de pouvoir donc greffer ces deux opérations-là ensemble pour faire une espèce de une pierre deux coups.
Et de perdre la responsabilité politique de la région de la Nordière, est-ce que ça fait un pincement au cœur?
Je suis encore député de Berthier. Je suis encore sur le conseil de tous les élus de la Nordière. C'est ma collègue Pascale Derry. J'ai quand même été presque 7 ans le ministre responsable de la Nordière. J'ai eu une partie du Bas-Saint-Laurent également pendant 1 an et demi. C'est une charge de travail qui est assez imposante. Ça m'a permis de découvrir toutes les facettes de la Nordière, celle qui est plus rurale, celle qui est plus urbaine, deux réalités complètement différentes que ma collègue Pascale connaît tout aussi bien que moi. Donc, des réunions. Première réunion très prochainement de tout le caucus de Lanaudière là, pour continuer de défendre les intérêts des Lanaudois puis des Lanaudoises.
Parce que justement, il y a quand même de grands défis là, à relever d'ici la prochaine élection, notamment en santé, notamment en éducation. On parle qu'il manque d'écoles, mais on n'a pas, évidemment, dans le contexte actuel, on connaît les mesures budgétaires qui ont été mises en place. Il y a du chemin à faire pour justement expliquer à la population là qu'on mérite peut-être un troisième mandat.
Ouais, ben c'est le discours du premier ministre lors de la sermentation d'il y a presque 2 semaines demain. Il y aura le discours inaugural aussi le 30 septembre prochain, alors que les travaux parlementaires du côté de Québec vont reprendre. Je pense que le message de M. Legault et son passage à Tout le monde en parle était clair également en ce qui a trait à l'économie, le portefeuille, puis toute la notion de sécurité aussi pour les Québécois. Fait que ces priorités puis ces orientations gouvernementales-là sont les mêmes pour le caucus de la Nordière, puis on va les défendre.
Bien, c'était la députée de Berthier, Caroline Proux, qui est désormais ministre responsable des aînés, ministre déléguée à la santé et ministre responsable de la condition féminine. Il est 16h15. Dans un moment, on écoute Luc Parlavecchio, intervenant au Centre d'amitié autochtone de la Naudière. Il sera question de l'organisme qui performe de plus en plus au niveau du tourisme.
Vous avez des nouveaux services à offrir, un talent à partager, des conseils à donner, des chiens à promener, des massages à donner, des prothèses à fabriquer. Vous avez une bonne idée. Vous voulez vous lancer? Informez-nous, on le fera savoir. Venez vous faire voir. Visitez notreentourage.ca pour voir.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Retrouvez le plaisir de manger grâce aux implants dentaires. La pose d'implants permet la stimulation de l'os visant à conserver sa densité osseuse en plus de servir d'ancrage à votre prothèse. Qu'elle soit partielle ou complète, la prothèse sur implant permet de retrouver une force masticatoire considérable, en plus de vous redonner une stabilité. Rien à voir avec une prothèse conventionnelle. Du même coup, ces bénéfices vous redonneront la confiance de sourire.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Présenté par les Habitations Bordelot, le Salon 50 Plus de Lanaudière est de retour les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Découvrez plus de 70 exposants de produits et services pour répondre aux besoins des 50 ans et plus. Au menu, plusieurs conférences. Chantal Lacroix, présentée par Club Voyage Albatros. Le Pharmacien, présenté par Pharmaprix des Galeries Joliette. Marie-Josée Taillefer, présentée par le Réseau des Cliniques Club. Et Sébastien Buisson, des Habitations Bordelot. Les nouveautés cette année, dégustation de repas prêts à manger convives, des conseils pour la vente de votre propriété, des ateliers de création, des robots. Tentez votre chance pour le moitié-moitié et bien plus. Plusieurs tirages de prix de présence pour les visiteurs. Le Salon 50 Plus de Lanaudière, les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Une invitation de FADOC, Région Lanaudière.
Avec vous, partout dans Lanaudière.
Repentigny, Saint-Côme, Saint-Jean-de-Matin.
La Visitation de l'Île-du-Pas.
CFNJ, 99.1-88.9.
Chez nous, on s'en laisse point poser. La musique américaine, on n'en joue plus.
Lanaudière PM, Première Nation.
16h18, Aventure Écotourisme Québec octroie deux attestations, une qualité sécurité, puis l'autre tourisme durable, au Centre d'amitié autochtone de Lanaudière. Et sans que ce soit trop connu, le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière, le CAL, organise à chaque année plusieurs activités en plein air pour des membres de la communauté. François Morin s'est entretenu un peu plus tôt avec un intervenant du CAL, Luc Parlavecchio, au sujet de ces activités-là, qui pourrait devenir accessible là, d'ailleurs pour toute la population.
La première, c'est qu'on offre un produit de qualité, qu'on amène nos membres dans le bois. On fait les choses très correctement et en plus, on est extrêmement sécuritaire. Donc, on souscrit à plein de normes qui nous assurent, qui nous permettent comme professionnels d'amener le monde dans le bois, même dans des conditions extrêmes, à moins 20, moins 30 l'hiver. Dans des conditions idéales au niveau sécurité. Donc, on a des plans de sortie, des plans d'urgence, on est formé en secourisme en région isolée. Donc, en fait, Aventure Écotourisme Québec est vraiment le plus gros représentant au Québec de l'industrie de l'aventure, du tourisme. Et on est super fiers de pouvoir maintenant dire que, un, on en est membre et que, deux, en plus, on est certifié.
Quelles sont les démarches qui ont été entreprises pour vous mener justement à l'obtention de ces attestations?
Ah ben c'est des grosses démarches. Alors au niveau sécurité ou tout simplement construction d'un produit touristique quand on va dehors. Nous on parle moins de produit touristique plutôt que d'amener nos membres à l'extérieur. Ben faut être capable de démontrer que on peut planifier une sortie, qu'on a mis en place toutes les mesures de sécurité qui nous permettent de mitiger les risques. Par exemple, quand on sort à moins 20, on peut pas avoir un risque zéro, mais il faut être capable de démontrer qu'on va mettre tout en place pour que les membres puissent sortir de cette aventure-là en bonne condition. On a des formations en eau vive, donc on est capable de descendre des rivières en canot, mais aussi s'il y a un problème sur la rivière, de les sortir de la rivière, de sortir les membres ou les personnes qui tombent à l'eau, de les sortir en toute sécurité. Et l'autre axe, c'est la dimension écotourisme. Donc, c'est dans quelle mesure, quand on sort dans le bois, on met en place des conditions pour s'assurer qu'on préserve l'environnement, qu'on va pas couper des arbres partout, puis que quand on va quitter la place où on est allé, on va laisser l'endroit dans le même état que quand on est arrivé.
Parlez-moi maintenant justement là des produits que vous offrez, des aventures que vous offrez, parce que c'est pas vraiment beaucoup connu à ce que je cherche là.
Non, ben c'est ça. Puis pour l'instant, on l'a pas encore développé de façon touristique, de façon officielle, c'est-à-dire à l'ensemble de la population lanaudoise, mais c'est quelque chose avec lequel on réfléchit, donc on est en train de se préparer. Mais donc on peut aller, on a été par exemple sur la côte nord pendant une dizaine de jours, remonter une rivière en Rabaska, qui est un espèce de gros canot dans lequel on est à 8 ou 10 personnes. Donc on a monté cette rivière où il y a des chutes, donc il fallait faire du portage, etc. Et on est complètement isolé, c'est-à-dire on n'a aucun moyen de communication à part le téléphone satellitaire. Plus proche d'ici, on va souvent dans la forêt Waro. Et là, dans la forêt Waro, ben, on peut faire une expédition, par exemple, toute une nuit, marcher l'hiver en raquette. Ça peut être de faire des descentes de rivière en Outaouais, comme ça nous est arrivé souvent. Ben, ça peut être aussi de la course à pied, tout simplement. Donc, faire des courses à relais de 300-400 kilomètres à travers tout la Naudière. Ça nous est arrivé de partir de Joliette en courant avec des jeunes qui s'étaient préparés pendant plusieurs semaines, puis de nous rendre en courant jusqu'à Manawan. Donc, on courait jour et nuit pendant une trentaine d'heures. Donc, en fait, on utilise tout le sport et le plein air comme un outil de développement humain. Donc, comment, à travers le sport et le plein air, la préparation physique, la réalisation de défis sportifs, je vais découvrir que finalement, j'ai peut-être un potentiel que je pensais pas avoir. Parce que moi, ma théorie comme entraîneur, c'est que n'importe qui peut courir un marathon ou un demi-marathon à partir du moment où il s'entraîne, qu'il soit en surpoids ou pas, peu importe. En fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir préparer ces personnes-là et puis leur enlever la dimension de performance, de temps, etc. en disant, écoute, tu vas courir un marathon, ça va peut-être prendre 5 heures, 6 heures, mais t'es capable de le faire. Et il se trouve que c'est ça qu'on vit en ce moment au centre d'amitié. C'est qu'on a des personnes qui, a priori, correspondent pas du tout au profil de sportif, puis parviennent à le faire.
Donc, on s'adresse exclusivement aux membres de la communauté autochtone.
Oui, principalement.
De la Naudière. Alors, ça rouvre la porte. Dans la réponse de tantôt, ça rouvre la porte. C'est qu'éventuellement, on pourrait y aller de certaines démarches avec Tourisme La Naudière pour que ça devienne vraiment un produit. C'est sûr que ça demande l'organisation. Ça va engendrer des coûts, mais ça va engendrer également des revenus.
Ben, c'est ça. Ça va engendrer des revenus, mais surtout, ça va engendrer une mixité. Vous savez, les centres d'amitié autochtones, l'objectif, c'est pas de vivre chacun de son côté. L'objectif, c'est que les populations allochtones et autochtones apprennent à se connaître et à vivre ensemble. On a le show Wasgabidan en ce moment, par exemple, le 21 juin. Là, c'est une immense fête où il y a 3 000-4 000 personnes. Il n'y a pas que des personnes autochtones, loin de là. Il y a même certainement plus de personnes allochtones. Et donc, nous, notre idée, à un moment donné, c'est de faire vivre le bois, faire vivre l'extérieur, faire vivre la nature de la façon dont les autochtones le vivent. Alors, c'est pas un projet qui est pour demain. Là, on se donne 1 ou 2 ans pour aller vers ça. Mais effectivement, une des options qu'on envisage, c'est de pouvoir avoir des allochtones et des autochtones ensemble en train de vivre l'expérience du bois, mais selon les réalités autochtones.
Voilà, c'était Luc Parlavecchio. Il est intervenant au CAL, le Centre d'amitié autochtone de La Naudière. Il est 16h24 ailleurs dans l'actualité. On parle beaucoup de Donald Trump aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard parce qu'il s'est dit tellement d'âneries pendant le discours de Trump aujourd'hui devant les Nations Unies. Là, entre autres que l'Ukraine peut regagner tout son territoire, là, c'est-à-dire qu'il a carrément changé son fusil d'épaule. Et maintenant, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que l'homme qui est accusé d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump sur son terrain de golf en Floride l'an passé, là, a été trouvé coupable de 5 accusations portées contre lui et les jurés ont délibéré là, moins de 3 heures aujourd'hui pour décider du sort de Ryan Root qui s'était représenté seul, alors sans avocat à son procès. On rappelle que cet homme de 59 ans s'était installé pour tirer au 6e trou du terrain de golf, mais qu'il a été repéré là, par un agent du service secret avant de pouvoir tirer sur Trump. Les plaignantes dans le procès civil de Gilbert Rozon réclament une mise à jour du calcul des sommes accordées là, pour des fautes de nature sexuelle. Et lors des plaidoiries de leur avocat, Maître Bruce Johnston a affirmé que la jurisprudence actuelle est encore fondée sur des stéréotypes du passé. Par exemple, il dit que un homme blanc victime de diffamation peut recevoir $1 million en dommages, alors qu'une femme qui est agressée, dont la vie a basculé, reçoit autour de $25 000. C'est pourquoi les demanderesses réclament maintenant chacune $1 million en dommages, en plus des compensations diverses. Là, je vous rappelle que ça se déroule encore, là, ce procès, là, à l'heure où on se parle, là, procès de Gilbert Rozon. Il y a de nombreux Canadiens qui ont continué en juillet de ne pas aller aux États-Unis selon des derniers chiffres de Statistique Canada. La baisse pour le mois de juillet du nombre de voyages de retour est de 32,4% par rapport à l'an passé. Donc, on peut dire que les gens ont beaucoup voyagé cet été au Québec, au Canada. Il y a eu davantage de résidents des États-Unis, par contre, qui ont voyagé vers le Canada que l'inverse là, pour la deuxième fois depuis juin 2006, si on exclut évidemment la période de la pandémie. Et le vice-président de l'Association des agences de voyage du Québec, Éric Boissonneau, affirme pour sa part que l'industrie explore maintenant de nouvelles destinations.
Je vois des collègues aller essayer des produits, aller assister à des conférences, des formations. On est très, très, très dans le développement de nouveaux marchés. Tu sais, exemple, la France, les Pays Basques, on connaît un peu les Québécois, mais pas tant que ça. Des croisières au départ de la France, on est après explorer ce marché-là. Les maritimes, Saint-Jean-Terre-Neuve, on est vraiment à la recherche des solutions alternatives à nos clients.
Ben, d'ailleurs, mon collègue Justin Lapierre est allé là cet été du côté de Terre-Neuve. Bon choix. Il y a le nouveau ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, là, qui a créé un groupe de 6 anciens hauts gradés de la police pour l'aider à faire face aux crimes organisés dans certaines régions. Et l'ancien directeur du service de police de la ville de Montréal, Jacques Duchesneau, en fait partie et indique que le groupe va ratisser quand même assez large.
Le groupe va vraiment se tourner vers l'ensemble des problèmes. La criminalité en étant une, bien sûr, mais il y a aussi d'autres choses. Des problèmes sociaux, des problèmes de santé mentale, des problèmes d'accidents de la route avec des camions. Nommez-les, on s'est rencontrés hier soir et on a 51 exemples là, ou domaines qu'on va être obligé de regarder.
Parmi certains exemples, on peut parler d'empêcher les Hells Angels d'afficher leurs couleurs et les cas d'extorsion qui seront notamment là, dans la mire de ce groupe de 6. Il est 16h28.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La 40, direction Est pour Charles de Gaulle. Je remarque qu'on est un petit peu plus nombreux à partir de Marien, mais on circule encore environ à 60-70 km/h. Tricentenaire, c'est un petit peu plus lent, mais quand même, on peut appuyer sur le champignon là, à partir de la 32e avenue Henri Bourassa. Là, ça va très bien. On traverse aisément la rivière des Prairies. Secteur Repentigny, 40 Est, ça se passe bien. La montée de l'Épiphanie, ouais, ben, c'est dense depuis la 40. Et ce, jusqu'à la rivière L'Assomption. Pont-le-Gardeur, ça va bien par Sherbrooke, également par Notre-Dame. 25 Nord, dense depuis la jonction avec la 440 sur environ 1 km. Secteur Terrebonne, 25, ouais, ça va bien. Le pont Sophie-Masson, un peu lourd à l'approche, mais la traversée est facile vers Terrebonne. Et finalement, autoroute 640. Entre la 25 et la 40, direction ouest, ça va bien. Direction ouest, un peu dense depuis la montée des Pionniers pour la 40. Dans un instant, les nouvelles avec Pierre Jubinville.
T'aurais pas une idée pour que je me fasse connaître sans me ruiner? Les gens veulent acheter local, mais s'ils me trouvent pas, ça sert à rien.
Tu te rappelles du Petit Bottin? Il est maintenant modernisé. En plus d'être distribué par La Poste, ils ont un site web bien référencé. Va sur notreentourage.ca. Inscris-toi.
Elle est de retour, plus conviviale et solide, avec tout le contenu de votre radio. L'application CFNJ sur Android et Apple.
La route, la route, la route, l'écran, la route, l'écran, la route, la route, la route, la route, l'écran, le piéton qui traverse, le pare-brise qui craque, le piéton à terre, le piéton à terre, le piéton à terre. Vos yeux ne voient qu'une chose à la fois. Si c'est l'écran, ce n'est pas la route. Gardez son attention sur la route, c'est juste la base. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant la liquidation totale, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Procurez-vous un Rogue 2025 à un taux de financement aussi bas que 0% jusqu'à 48 mois. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Si vous devez changer ou avoir une prothèse partielle, assurez-vous d'avoir procédé à un examen et nettoyage chez votre dentiste au cours de la dernière année. S'il y a des réparations à effectuer sur vos dents naturelles, assurez-vous également que celles-ci soient complétées avant la visite chez le denturologiste. De cette façon, des délais supplémentaires seront évités et nous nous assurons que les dents sollicitées seront saines.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
CFNJ effectue en ce moment des essais de diffusion au 99.1 FM depuis son nouveau site d'émission à Saint-Félix-de-Valois. Si vous êtes victime d'interférences, communiquez avec nous au 450-404-2365, poste 226.
Oui, il est 16h31, c'est le moment de retrouver Pierre Jubainville. Tout d'abord, Pierre, le bras de fer se durcit entre les médecins et le gouvernement.
Oui, Claude, après les médecins spécialistes, ce sera au tour des médecins de famille de cesser leurs activités d'enseignement. Ça se fera à compter du 1er octobre. Ils ont voté aujourd'hui à 91% en faveur de nouveaux moyens de pression.
Les médecins de famille en ont assez, clame haut et fort le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le docteur Marc-André Amiot.
Les professionnels dont la population a le plus besoin, on les dénigre. Ça, c'est odieux.
Le cœur du problème, le fameux projet de loi 106 qui vise à modifier leur mode de rémunération.
On a un mauvais diagnostic, qu'on est en train de faire un mauvais plan de traitement.
Les étudiants en médecine craignent de leur côté les impacts de ces moyens de pression, comme le souligne la vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec, Félicie Harvey.
On est inquiet pour l'éligibilité. On est inquiet également pour les stages que les étudiants manquent et vont manquer.
Ryan Cara, président exécutif de la Medical Student Society de l'Université McGill, souligne que c'est la population entière qui finira par en payer le prix.
Imaginez 1000 médecins de famille en moins. Imaginez 1000 spécialistes en moins.
Caroline Bertrand, pour Cogeco Nouvelles.
Et il y aura, Pierre, une enquête sur trois décès dans l'industrie de la construction, dont un à Terrebonne.
Oui, la coroner Andrée Kronstrom doit veiller à trouver les causes et les circonstances entourant ces décès. Évidemment, élaborer une réflexion élargie sur les pratiques de sécurité. L'enquête portera, entre autres, sur le décès de Médric Lincourt, 21 ans, survenu le 4 août à Terrebonne. Et on écoute la réaction d'Alexandre Ricard. Il est président de la FTQ Construction.
On a encore trop de décès dans l'industrie de la construction. Là, c'est pratiquement un tiers des décès dans la force de la main-d'œuvre. Sachez que dans l'industrie de la construction, là, on représente pas plus que 7 à 8 % de la force de main-d'œuvre au Québec, mais pourtant, on représente 33 % des décès.
On retourne maintenant dans le dossier de la commission sur Saclic, là, Carl Malenfant, qui a tenté de justifier les dépassements des coûts.
Oui, et on a appris, Claude, aujourd'hui, que les coûts approchent maintenant le milliard de dollars, quand même. Alors, Malenfant reconnaît qu'il n'a jamais parlé des dépassements de coûts de ce virage numérique lorsqu'il a rencontré au fil des ans les ministres ou le personnel politique. Le témoignage de Carl Malenfant devrait prendre fin demain à l'heure du midi.
Est-ce qu'à un moment ou à un autre, M. Malenfant, lors des rencontres avec, je dirais, les fonctionnaires du gouvernement ou le personnel politique ou les ministres, vous allez faire cet historique des coûts du projet?
Je ne crois pas. Je fais la présentation technique des dossiers, en fait. Là. C'est ça que je cherche.
Oui, une histoire bien triste. Il y aura enquête, cette fois, là, du Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI, là, sur le décès d'un adolescent de 15 ans.
Oui, ça s'est passé lors d'une intervention policière dimanche. L'adolescent de 15 ans est décédé et le BEI a ouvert une enquête. La police était intervenue après avoir été informée qu'un groupe de personnes armées se déplaçait dans un lieu public. On va écouter la directrice du BEI, Brigitte Bishop, qui a tenu à rappeler à ce que son organisme est pleinement indépendant.
Nous sommes impartiaux et notre mission est de faire la lumière sur les événements. Pour faire la lumière, nous avons besoin des éléments de preuve qu'on obtient de façon la plus rigoureuse. Donc, nous voudrions pas que certaines personnes se rendent compte ou altèrent des éléments de preuve. Je suis un peu préoccupée d'entendre qu'il y a certaines petites enquêtes qui se font de façon privée ou indépendante. Puis comme je vous dis, aidez-nous.
Et il y a le Bloc québécois qui dépose une motion sur la laïcité.
Oui, la motion a été déposée ce matin à la Chambre des communes et on conteste, c'est une contestation judiciaire de la loi sur la laïcité de l'État qui doit être entendue en Cour suprême. Et selon le chef du parti, Yves-François Blanchet, cette décision d'Ottawa est tout simplement une tentative de coup de force constitutionnel.
La volonté du gouvernement fédéral est d'aller chercher une centralisation, encore une fois, énorme des pouvoirs qui s'ajoute à celle de leur odieux C5 au détriment des législatures du Québec et des provinces.
Et Donald Trump, qui a encore donné un spectacle aujourd'hui à l'ONU, devant l'ONU, il s'est carrément ridiculisé.
Oui, sans papier, il a improviser pendant une heure de temps. Mais il a quand même insisté sur la sécurisation des frontières partout dans le monde. Il a traité de plus grande arnaque les lois sur l'environnement. En tout cas, on va écouter le topo de Denis Couture.
Donald Trump s'est vanté d'avoir stoppé une invasion de migrants aux États-Unis. Il a critiqué le rôle des Nations unies qui devraient, selon lui, arrêter ces invasions et non pas les créer ou les subventionner.
What took place is totally unacceptable. The UN is supposed to stop invasions, not create them. And not finance them.
Le président américain a dit avoir mis fin à 7 guerres dans le monde. Les pays impliqués n'ont jamais reçu l'aide de l'ONU, a-t-il ajouté. Sur la guerre à Gaza, il a affirmé que de reconnaître la Palestine serait une récompense pour le Hamas et les atrocités qu'il a commises.
The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities.
Frontières, changement climatique, à plusieurs reprises, Donald Trump s'est questionné sur la pertinence même de l'Organisation des Nations Unies. Ici Denis Couture pour Cogeco Nouvelles.
Ben voilà, Pierre, on aura là, d'ailleurs l'occasion de revenir sur Trump là, devant l'Organisation des Nations Unies là, avec Pierre Paquette un peu plus tard.
Bonne soirée, mon cher.
Merci, Pierre.
Au 99.1-88.9-CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM Sport.
Ouais, un nouveau mouvement s'installe dans la région de Lanaudière. Il s'agit du 6AM Club. C'est un regroupement d'adeptes de course à pied qui ont le courage, diront certains, là, de se lever pas mal tôt le matin pour s'adonner à leur exercice préféré et développer des nouvelles amitiés. Ouais, notre collègue Régent Turgeon a rencontré Josiane Ray, qui est ambassadrice du club à l'Assomption.
Ben le 6AM Club, ça a été fondé par Monsieur William Fugère. Ça fait de ça quelques années. Ça a été fondé à Montréal. Et l'esprit du club, c'est de justement rassembler des gens autour d'une passion commune qui est la course à pied. Le faire aussi le tôt le matin, donc à 6 heures du matin. Et c'est un mouvement, je dirais, solidaire, inclusif. C'est de se retrouver et de prendre un café à la fin de la course ensemble. Donc, c'est un 5 km à ce qu'on appelle une allure sociale, c'est-à-dire une allure de 6, 32 km. Donc, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment très festif. On jase en courant. Donc, ça existe dans plusieurs villes, plusieurs municipalités, même d'autres pays.
Comment vous expliquez-vous votre intérêt pour la course à pied? C'est pas d'hier là, que vous en faites.
Non, moi, ça fait 25 ans que je suis coureuse. Donc, des marathons, demi-marathons, des 5, des 10. Et là où je suis rendue dans ma vie, c'est plus de partager ma passion du jogging. Okay. Okay. D'où l'idée, j'ai vu le 6AM passer sur les réseaux sociaux dans d'autres, dans des quartiers de Montréal. Et je me suis dit, ah, ça prendrait ça à l'Assomption. Donc, c'est cet été que j'ai contacté le club, puis je leur ai offert de partir ce club-là ici à l'Assomption, puis donc ça s'est fait vraiment facilement. Je me suis servi des réseaux sociaux, évidemment, pour annoncer la création, et rapidement, j'ai eu 5-6 personnes qui se sont joints à moi le premier matin. C'était le 23 juillet, je me rappelle de la date.
Mais là, Mme Ray, se lever très tôt pour courir, il faut le faire. Est-ce qu'il y a des vertus particulières à courir si tôt quand on sait qu'on a une longue journée de travail en avant de nous après cette course-là?
Bien, dans mon cas, j'ai toujours couru tôt, là. C'est sûr que l'heure me convient, mais je pense que c'est pour les gens qui sont là, qui viennent, ce qu'ils me disent, c'est que c'est très énergisant pour partir ta journée après le travail. Tu fais ton sport, une activité que tu aimes juste avant de commencer aussi. Est-ce qu'il y a des vertus? Peut-être courir à jeun, moi, c'est mon cas. Est-ce que c'est meilleur? Je sais pas. J'ai déjà lu des choses là-dessus. Je sais pas si c'est scientifique, mais c'est sûr que je pense que c'est le côté vraiment de bien partir sa journée. Et souvent, ceux qui viennent au 6AM, ce sont des gens qui sont inscrits à des courses et ça leur fait un entraînement de plus dans leur semaine.
Ça prend de la motivation quand même et de la discipline, là.
Oui, ça prend de la motivation, de la discipline. Mais moi, c'est sûr que c'est en moi depuis des années. Donc, moi, je ne me pose pas de questions. Je mets mes souliers, je m'habille en short, t-shirt, puis je pars courir. Donc, j'ai besoin, dans mon cas, de courir. Et ceux qui viennent aussi ont ce désir-là aussi de soit de faire une course, sont inscrits à une course, ou soit juste de s'entraîner pour la santé. Donc, de tous les âges, les gens, là, on a des jeunes, on a des gens de mon âge de cinquantaine, on a des gens de la trentaine, des filles, des gars, des professionnels. Il y en a qui partent travailler, il y en a qui rentrent prendre un café, d'autres pas. Et les discussions sont toujours intéressantes autour de la table après. On fait ça chez Les Entêtés, un café super chouette qu'on a à l'Assomption. C'est Véronique, la propriétaire, qui ouvre ses portes pour nous le mercredi matin à 6h30, parce que normalement, elle ouvre plus tard, mais elle avait le goût de s'associer à ce mouvement-là parce qu'elle trouve ça vraiment intéressant.
C'est relativement nouveau, vous l'avez dit, à l'Assomption. Il y a déjà des adeptes. Est-ce que la grosseur du groupe varie d'une semaine à l'autre? Des gens se greffent, d'autres se désabonnent, si on peut dire, ou d'autres reviennent?
Oui, ça varie. Le plus nombreux, on a été, je pense, 17 personnes. Mais ce qui est bien avec le club, c'est qu'il n'y a pas de « c'est gratuit », il n'y a pas d'adhésion. On vient quand on a le goût de venir. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont là depuis le début. Il y en a d'autres qui viennent une fois, d'autres viennent pas. C'est sûr que le défi de se lever tôt, c'est pas tout le monde qui aime se lever tôt. Parce qu'il faut quand même se lever à 5h30, se rendre là pour 6h. 6h, on part vraiment la course. Mais il y a des réguliers. Mais il y a ce matin, il y avait quelqu'un de nouveau que j'avais jamais vu qui est arrivé. Une jeune femme d'à peu près 25 ans. Puis la semaine prochaine, ça va être d'autres personnes. Fait que c'est beaucoup de bouche à oreille, hein. Les gens ont vu sur les réseaux sociaux le maire de la municipalité, M. Sébastien Nadeau, partager ma publication. Fait que c'est sûr que beaucoup de gens sont au courant. Il y a un 6AM à Repentigny, à Terrebonne, puis à Joliette aussi depuis déjà peut-être plus que 2 ans, là, dans le cas de Joliette. Donc, c'est sûr que ce mouvement-là, il commence à être connu de plus en plus.
Madame Ray, là, il fait beau, c'est l'été, juillet, août, on a un mois de septembre extraordinaire. Mais là, va arriver le mois de novembre, des temps gris, pluvieux, et l'hiver, on va-tu courir à l'année longue?
Oui, le 6AM court à l'année longue, mais on peut, comme club, décider qu'on cesse nos activités pendant l'hiver. Moi, j'ai justement posé la question aux coureurs ce matin, puis la plupart veulent continuer. Les gens veulent continuer, puis moi, j'ai couru souvent l'hiver, fait que ça me dérange pas, mais je vous avoue que j'espère avoir des participants avec moi, parce que partir, me lever à moins 10, aller courir à 6 heures du matin avec la neige, puis il fait froid, peut-être que ça va moins me tenter, mais là, jusqu'à maintenant, les gens ont le goût de continuer.
Les objectifs à plus long terme, grossir les rangs des coureurs, allonger la distance à courir, qu'est-ce que ça pourrait être?
Bien, c'est sûr que certains clubs de Montréal font des sorties la fin de semaine plus longues. On a parlé un petit peu de ça, mais j'aime bien le côté seulement de cette journée-là. C'est simple. Moi, c'était une condition pour moi aussi. Je travaille toute la semaine, je suis gestionnaire, j'en ai beaucoup dans ma cour, puis je veux pas avoir organisé ou que les gens m'écrivent. Non, moi, je me présente et c'est simple et facile. Fait que je pense que ça va rester comme ça. Mais ça arrive que la communauté de Montréal, des communautés organisent des activités, on peut y aller si on veut. Mais je pense que ce côté-là, très accessible, on se rend, on jase, on court, on prend un café, puis on se dit bonne semaine à la semaine prochaine, ça me convient.
Faut se faire des nouveaux amis, là.
Oui, mais les relations, c'est très humain comme groupe. Les relations, les discussions sont, on parle de notre travail, on parle de santé, de course, on se conseille. Moi, ça fait longtemps que je suis coureuse, fait que je partage mon expérience en toute amitié, là. Puis c'est vraiment très intéressant. Il y a des liens qui se créent, il y a des gens qui vont se revoir peut-être après pour faire d'autres courses. Fait que ça me parle beaucoup, moi, ce côté humain-là de la course. Quand tu cours seul, ben, t'es seul avec toi-même, mais là, de jaser, de discuter, c'est très enrichissant.
Ça prouve que faut se lever de bonne heure pour être en forme. Oui, quand même, ça prend du courage aussi pour se lever très tôt le matin pour aller courir comme ça. C'est Josiane Ray qu'on écoutait, ambassadrice du club 6AM à l'Assomption. Dans un instant, Pierre Paquette.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 21 septembre. Gagne 100 $ avec la ligne DG, Joanne Cook de Mandeville, une carte achetée au Proxy Extra de Saint-Gabriel. Yolande Dupuis de Saint-Paulin, carte procurée à la tabagie Grand-Père de Louisville. France Cormier de Saint-Côme, une carte achetée au dépanneur RMRI. Et Joanie Clément, aussi de Saint-Côme, qui s'est procurée sa carte chanceuse également au dépanneur RMRI. Remporte 2 000 $ avec leur carte pleine, Mathieu Bourassa de Trois-Rivières, une carte procurée au Bonichois à Mandeville. Et Benjamin Godet de Saint-Côme, qui s'est procuré sa carte chanceuse à la tabagie Saint-Félix. Quant à la deuxième chance, 600 $, elle a fait une personne heureuse. Jocelyne Leblanc de Saint-Jacques, grâce à une carte achetée au Shell à Saint-Jacques. tous les dimanches matins à 10h05. Gagnez gros dans le super Radio Bingo de CFNJ. Toujours 5 000 $ à gagner avec les trois jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8 $ pour une feuille de 4. La liste complète des dépositaires des cartes du super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ, section Super Radio Bingo. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Vous envisagez de réaliser vous-même votre habitation, un bâtiment annexe ou un projet collectif? La Caisse du Nord de Lanaudière vous invite à une rencontre dédiée à l'autoconstruction. Un moment d'échange pour mieux comprendre les enjeux, les étapes et les ressources nécessaires à ce type de démarche. Rencontre virtuelle le mardi 24 septembre de 18h30 à 19h45. Inscription obligatoire dans l'un de nos centres de services.
Présenté par les Habitations Bordelot, le Salon 50 Plus de Lanaudière est de retour les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Découvrez plus de 70 exposants de produits et services pour répondre aux besoins des 50 ans et plus. Au menu, plusieurs conférences. Chantal Lacroix, présentée par Club Voyage Albatros. Le Pharmacien, présenté par Pharmaprix des Galeries Joliette. Marie-Josée Taillefer, présentée par le Réseau des Cliniques Lob. Et Sébastien Buisson, des Habitations Bordelot. Les nouveautés cette année, dégustation de repas prêts à manger convives, des conseils pour la vente de votre propriété, des ateliers de création, des robots. Tentez votre chance pour le moitié-moitié et bien plus. Plusieurs tirages de prix de présence pour les visiteurs. Le Salon 50 Plus de Lanaudière, les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Une invitation de FADOC, Région Lanaudière.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre.
Bonjour.
Il s'en est dit des conneries aujourd'hui à l'Assemblée générale des Premières Nations, des Nations Unies plutôt. Oui,
des Nations Unies. Ouais. Oui, oui, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, par contre. Ah. Mais effectivement, on avait l'impression d'assister à un spectacle de ding et dong. Là,
ah, c'est pas
avec
possible.
Avec une série de ben, ça a commencé hier soir là avec... le lien que faisait Trump entre le Tylenol et l'autisme, là, qui base sur aucune preuve scientifique,
qui va créer
des craintes pour des femmes enceintes qui utilisent Tylenol parce qu'ils ont des douleurs. Alors vraiment, c'est totalement irresponsable.
Juste rapidement, là, pour le dire, là, Johnson & Johnson, compagnie propriétaire là, de la marque Tylenol, a perdu, je crois, 7 points là, à la bourse à New York. Et la compagnie Johnson & Johnson, son directeur général, j'ai fait une petite recherche rapide hier, là, son directeur général a critiqué Trump sur ses tarifs douaniers. Alors, ben peut-être qu'il paye le prix aujourd'hui.
Ben exactement, ça c'est assez évident. C'était comme quand Trump avait voulu faire changer et puis encore, on sait pas ce qui a abouti de ça, la recette de Coca-Cola pour remplacer le sirop de maïs par du sirop de canne à sucre, alors que la canne à sucre, on n'en produit pas aux États-Unis, mais du sirop de maïs, on en produit beaucoup aux États-Unis. Ouais. Alors, c'est contraire aux intérêts des producteurs agricoles américains. Mais aujourd'hui, ça a été ça aussi, là. Il s'est vanté d'avoir arrêté des guerres, ce que les Nations Unies n'ont pas été capables de faire, qu'il méritait le prix Nobel de la paix. Il a parlé contre le réchauffement climatique, que c'était une arnaque, la plus grande arnaque du siècle, contre l'aide humanitaire aux migrants. Il a parlé contre la reconnaissance de l'État palestinien.
Alors, ah ben oui, évidemment.
Il y en avait pour tous les adversaires de Trump là-dedans. Bon, par exemple, sur l'affaire des guerres en question, ben, il donne des exemples sur, par exemple, l'arrêt du conflit entre l'Inde et le Pakistan concernant le Cachemire. Sauf que le problème, il n'y a pas d'accord. Ça peut commencer la semaine prochaine. Même chose pour Israël puis l'Iran. Oui, ben, ils ont évidemment bombardé les installations iraniennes. Sauf que la paix est pas rétablie entre l'Iran et Israël, et donc on est toujours en conflit. Là, il y a comme une trêve de facto, mais c'est loin d'avoir été réglé. Alors, ça a été toutes des affirmations de cet ordre-là qu'on a entendues pendant une heure. En plus, semble-t-il que le télésouffleur fonctionnait mal, donc ouais. Ils ont improvisé beaucoup.
Et là, il change son fusil d'épaule dans le dossier de l'Ukraine en disant que à Zelensky, là, que l'Ukraine pourrait regagner tout son territoire. Là, quand on parle de tout son territoire, ben ça inclut la Crimée, là, qui était à l'origine de ce conflit-là avec la Russie.
Oui, qui a été annexée par les Russes il y a déjà plusieurs années. Oui, puis justement, il parlait des conflits auxquels il a mis fin, mais bon, encore une fois, c'est pas des conflits auxquels on est arrivé à des accords de paix.
Ben non, ouais.
Mais il a pas parlé du conflit en Israël, la bande de Gaza. Il devait régler ça en 24 heures. Même chose pour l'Ukraine. Ça fait des semaines et des semaines qu'il répète qu'il va avoir des super sanctions contre la Russie, et puis toujours rien. Alors, c'est vraiment... on parle, mais on n'agit pas dans le sens...
Et là, concernant la Russie, ce qu'il a lancé aujourd'hui, c'est quand même grave, là, concernant les espaces aériens qui étaient violés par la Russie. Trump raconte que l'OTAN devrait carrément abattre les avions russes.
Oui, mais bon, par exemple, pour ce qu'on a vu hier à Oslo et Copenhague, là, les drones, on n'a pas de certitude que c'est la Russie. Bon, évidemment, on se doute que c'est les Russes, mais là, encore une fois, ça va être quoi les conséquences? Il n'a pas l'air de calculer ça. En plus, il s'est désinvesti en grande partie d'organisations internationales comme l'OTAN. Alors, c'est totalement irresponsable comme propos. S'il voulait vraiment aider l'Ukraine, ben il rétablirait l'aide telle qu'elle existait sous Biden. Et ça, ça aiderait vraiment les Ukrainiens. Là, il dit une chose, la semaine prochaine, il en dira une autre. Mais encore une fois, ça fait des semaines qu'il annonce des sanctions catastrophiques pour la Russie, puis il se passe rien. Mmh. Alors, le réchauffement climatique aussi, ça m'a fait bien rire, parce que il a parlé des moulins à vent concernant les éoliennes. Il dénigrait carrément là, toutes les formes, les nouvelles formes d'énergie renouvelable.
Bon, ben, il vient de se moquer s'il se moque des moulins à vent, il se moque des Pays-Bas.
Ben oui, en plus. Mais on a besoin de nouvelles formes d'énergie. Là, on peut pas penser qu'avec l'énergie fossile, on va être capable, sur une très longue période, de continuer à consommer tel qu'on consomme présentement. C'est assez évident. Donc, il a confondu aussi le réchauffement climatique. Il dit que le réchauffement climatique, c'est une arnaque. L'hiver dernier à Washington, il n'a jamais fait aussi froid à un moment donné. Et ça, c'est justement, ça fait partie des effets des changements climatiques, les réchauffements extrêmes qu'on a connus cet été. Je
pense et les réchauffements extrêmes et refroidissements extrêmes d'une saison à l'autre. C'est ça.
Alors, c'est les tendances qui sont importantes là-dedans. Puis la tendance est au réchauffement du climat à l'échelle planétaire. Alors, c'était vraiment lamentable comme présentation. En tout cas, les gens qui étaient là ont dû se mordre les joues pour pas rire ou pleurer.
Il faut mentionner en terminant qu'il a eu l'occasion aujourd'hui, mais pas longtemps, de rencontrer le président brésilien Lula da Silva, que Trump accuse d'ailleurs de persécuter l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, son grand chum. Là.
Son grand chum, exactement. Alors que Lula lui-même a été passablement persécuté pendant le règne précédent. Ouais. Il a été emprisonné. Ouais. Il a fallu qu'il fasse la démonstration qu'il n'était pas coupable et il a été réélu président. Ce que je pense pas, ce qui va arriver à l'ami de M. Trump.
Non.
Alors vraiment, ça a été une journée déplorable au plan, je dirais, de la pensée rationnelle.
Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre. Bonne soirée.
Merci, on se reparle demain.
Oui.
Lanaudière PM, politique fédérale.
Bon, ça va à Ottawa aux communes, les parlementaires qui vont voter demain sur une motion du Bloc québécois. On demande au gouvernement de se retirer complètement de la contestation judiciaire de la loi sur la laïcité de l'État du Québec en Cour suprême et de retirer le mémoire déposé le 17 septembre en Cour suprême qui conteste le droit du Québec de se prévaloir de la clause dérogatoire. Et François Morin en discute avec le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron.
Ben écoutez, on espère que les conservateurs, l'opposition votera avec nous. Ils nous donneraient une majorité. On sait que le NPD, les libéraux, logent à une adresse qui est différente, parce que pour eux, le Québec n'a pas le droit d'exister, puis n'a surtout pas le privilège d'utiliser les outils qui ont été mis à sa disposition dans la fameuse Constitution qu'on n'a jamais signée et qu'on est à peu près les seuls à respecter.
Pour monsieur et madame tout le monde là qui nous écoute, faudrait peut-être rappeler ce qui est le cœur du débat. En fait, c'est que tout tourne aussi autour de l'utilisation de la fameuse clause nonobstant.
En fait, oui, c'est que quand on a une loi qui est votée par un parlement qui serait susceptible d'être contestée devant les tribunaux en vertu de la Charte des droits et libertés, de la Constitution canadienne de 1982, tous les gouvernements ont l'option d'inclure dans leur loi ce qui s'appelle la clause dérogatoire, qui les exempte de toute poursuite judiciaire. Évidemment, il faut que ce soit justifié, puis c'est toujours dans une optique de bien commun. Et c'est dans la Constitution, le Québec, comme plusieurs autres provinces d'ailleurs, vous savez qu'il y a plusieurs autres provinces qui sont d'accord avec le Québec là-dessus, utilise cette clause-là pour éviter qu'une loi soit contestée, remise en question et peut-être même annulée pendant un certain temps, ce qui créerait le chaos. Donc, on a utilisé cette loi-là, entre autres, je donne des exemples, là, pour la laïcité. C'est ça qui a dérangé le gouvernement libéral. Ils sont trop hypocrites pour contester la laïcité, fait qu'ils servent de la clause dérogatoire comme justificatif en faisant semblant que la laïcité n'est pas dans la cause, mais on se laisse pas berner par ça. Mais sinon, on a utilisé ça pour protéger la langue française. Une personne anglophone pourrait dire que ça brime ses lois, ses droits que le Québec parle français. On a utilisé ça pour, je cherche un autre exemple, la Cour des petites créances, pour que la justice soit plus accessible à tous. C'est interdit d'être représenté par un avocat. C'est un droit fondamental. Alors, elle pourrait être contestée pour ça. La loi sur les pour les mineurs, pour qu'il y ait le droit de témoigner hors cours, ça pourrait être contesté puisque la clause non-obstant est utilisée. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus large que ce que le gouvernement libéral veut essayer de laisser croire à la population.
C'est quand même un débat complexe, là, toujours pour les gens qui nous écoutent. Et pourtant, cette loi-là sur la laïcité a reçu quand même un appui fort favorable du côté de l'Assemblée nationale.
Ah, le Québec est pratiquement unanime là-dessus. Il y a quelques exceptions là qui veulent contester pour avoir le droit de porter leur signe religieux quand ils sont dans la fonction publique. Mais quand on représente l'État, la vision de la laïcité québécoise, c'est quand on représente l'État, on doit être neutre. Ça s'empêche pas cet individu-là d'avoir les croyances qu'il choisit d'avoir puis de pratiquer la religion qu'il désire pratiquer. Ça l'empêche d'imposer sa religion aux clients de l'État, aux gens qui reçoivent le service. Puis elle est là toute la nuance. Le Canada privilégie l'individualisme en compétition les uns les autres. Au Québec, on est plus sur le collectif. On se donne des valeurs communes, des balises communes pour bien vivre ensemble. Et je pense que ça fonctionne beaucoup plus. Mais comme ce n'est pas le modèle multiculturaliste pan-canadien, ça les dérange beaucoup. Quand on trouve un moyen de faire ce qu'on veut faire sans se faire embêter, en utilisant leur constitution qu'ils ont signée dans notre dos sans qu'on la signe, là, encore à ce jour, ça fait 43 ans, M. Morin, là. 43 ans aujourd'hui que le Québec vit avec un contrat enfoncé dans le fond de la gorge, parce que c'est ça la constitution canadienne. Mais là, ça ne fait pas leur affaire encore. Puis là, on va essayer oups, il y avait une porte là, on va essayer de les écraser. Puis, mais tout au long de notre histoire, c'est l'histoire canadienne, ça. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de ça. Là, nous, on sauve les meubles, on se défend pendant qu'on est dans la Fédération canadienne, mais éventuellement, tôt ou tard, on n'aura pas le choix. Il faut prendre notre avenir en main pour pouvoir protéger nos choix collectifs, tout simplement.
Advenant le cas où, effectivement, le Parti conservateur se rallie pas au Bloc québécois, est-ce qu'il y a un plan B?
Ben, en fait, nous, l'idée, c'est de faire vivre le sujet puis d'essayer d'informer la population. Puis c'est sûr que cette lutte-là serait pas terminée, mais on a encore grand espoir de voir notre motion adoptée. Je vais mettre le gouvernement là-dessus.
Ce sera à suivre demain à la Chambre des communes. C'était le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Voilà, c'est déjà tout pour celui qui vous parle. Ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée. Nicolas Bellemare s'en vient pour le 5 à 7 trad. Demain, vous serez en compagnie de Michel Arnois pour la Naudière PM. Et quant à moi, ben, je vous retrouve jeudi. Bonne soirée, tout le monde.